Merci Alex. Donc on est encore dans notre série dans le livre de Daniel, donc Daniel chapitre 11. Je vous invite à trouver dans les Bibles blanches ce chapitre à la page 579. Daniel chapitre 11, donc on est presque à la fin de ce livre. La semaine prochaine, Dieu voulant, on va terminer nos prédications dans ce livre. Je vais prier d'abord. Prions. Merci à notre bon Père Céleste pour ta parole. Merci de ce qu'on peut te connaître par cette parole. Et ce matin, nous voulons te demander de vraiment nous aider à comprendre cette parole. Donne-nous ton esprit. Remplis-nous de ton esprit pour que nous puissions vraiment comprendre cette parole et mieux te connaître. Nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. On va lire le passage au fur et à mesure donc ce matin. Donc, on va commencer et ensuite on va faire la lecture en y allant. Alors l'avenir nous fascine. On a tous, je pense, envie parfois de savoir à l'avance ce qui va se passer. Hier soir, j'ai vu sur Internet un clip où il y avait un couple qui venait de se fiancer, qui allait se marier. Et donc, par un système de maquillage un peu technique, ils ont vieilli le couple. Donc, ils ont donné 20 ans de plus et ensuite, deuxième étape, 40 ans de plus, 60 ans de plus à chacun dans le couple pour qu'ils puissent voir avant de se marier à quoi le conjoint allait ressembler dans 20 ans, dans 40 ans. Et à la fin, ils ont dit, ah oui, mais ça conforte mon amour. Je veux me marier avec celui-là, avec celle-là, même. Dans la vieillesse, on a besoin, parfois on veut connaître l'avenir. En même temps, je pense qu'on a parfois peur de l'avenir. On ne sait pas trop ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer d'ici 5 ans. On ne sait même pas si on sera en vie d'ici 5 ans. En tout cas, ce passage va nous parler de l'avenir. L'avenir du peuple de Dieu. L'avenir du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, le peuple de Dieu, sous la Nouvelle Alliance, les Juifs, les non-Juifs qui ont cru en Jésus. Et on va voir dans ce passage que l'avenir, jusqu'à un certain point, va nous faire peur. L'avenir n'est pas toujours rose. Mais en même temps, on va voir, surtout peut-être avec le passage de la semaine prochaine, que quand même, tout va aller pour le mieux pour le peuple de Dieu. Alors, un rappel du contexte. En effet, le chapitre 11 qu'on va lire ce matin fait partie d'une vision qu'on a déjà commencé au chapitre 10, il y a 3 semaines maintenant, et qui s'étale aussi sur le chapitre 12 qu'on va voir la semaine prochaine. Alors, il y a quelques semaines au chapitre 10, on a vu le début de la vision. Daniel a vu un homme glorieux. Un ange peut-être, ou même, on ne sait pas, peut-être Jésus-Christ avant l'heure. Et Daniel était terrassé par cette vision, terrifié. Il était tout tremblant. Et ensuite, il a été fortifié par les paroles de cet homme. Et dans cette première partie de la vision, au chapitre 10, on a vu 2 choses. On a vu la réalité du combat spirituel. Il y a un combat spirituel. Dans les lieux célestes, en fait, cet homme était revenait du combat contre le prince de Perse. Et à la fin de la vision, il allait repartir pour être dans ce combat spirituel qui a aussi des ramifications sur l'histoire humaine. Et on a vu aussi la place de la prière dans ce combat spirituel, dans cette lutte spirituelle. Parce que chapitre 9, Daniel était dans la prière pour son peuple. Il a intercédé pour son peuple. Il avait vu dans la parole que l'exil allait terminer, allait finir après 70 ans. Et il demandait à Dieu de faire ce qu'il avait promis. Au chapitre 10, on a vu que l'ange, cet homme, est venu parce que Dieu avait entendu les paroles de Daniel. On a vu la place de la prière dans cette lutte spirituelle et on doit garder ça. À l'esprit, au chapitre 11 et au chapitre 12, on a besoin d'être un peuple de prière. Et aujourd'hui, ce matin, on va voir le contenu de cette vision, la grande partie au milieu. On va voir ce que Dieu veut dire à Daniel dans cette vision. Alors, je vous préviens, ce passage n'est pas facile. Un commentateur a dit ce chapitre doit être traité qu'en étude biblique. Je ne vois pas, c'est ce qu'il dit, comment on peut l'aborder lors d'une prédication ou lors d'une série de prédications. Donc, à vous de me dire après si on a fait une erreur. Mais en même temps, moi, je pense que quand même, on est appelé à aborder ces passages un peu difficiles dans la parole. C'est la parole inspirée de l'Esprit. Et on va voir, je pense qu'il a un message nourrissant pour nous ce matin. En tout cas, je vais essayer de rendre le message aussi simple que je peux. On va dépendre ensemble du Saint-Esprit. Le message de ce chapitre 11 n'est pas foncièrement différent du message qu'on a déjà vu au chapitre 8, où Dieu a révélé à l'avance l'avenir pour nous avertir. Un homme averti en vaut deux, c'est ce qu'on a dit. Mais ici, on va voir encore plus de détails. Et on va voir que Dieu révèle l'avenir pour que nous puissions tenir bon jusqu'à la fin, pour nous renforcer, pour nous fortifier dans notre foi. Et ça même dans les malheurs qui nous attendent. Alors, on a quatre points ce matin. On va commencer avec un premier point. Et je vais lire une partie du texte. Donc, le premier point, c'est « Dieu est plus grand que les grands de l'histoire ». On va lire les trois premiers versets, donc à partir du verset 2. « Maintenant, je vais t'annoncer la vérité. Il y aura encore trois rois qui régneront sur la Perse. Le quatrième amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il aura gagné en force grâce à ses richesses, il soulèvera tout le monde contre le royaume de Grèce. Cependant, un roi vaillant se dressera. Il dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Une fois qu'il se sera dressé, son royaume sera brisé et divisé aux quatre coins du ciel. Son royaume n'appartiendra pas à ses descendants et ne sera pas aussi puissant que le sien, car il sera déchiré et passera à d'autres qu'eux. » Alors, si vous étiez là pour la prédication sur Daniel 8, dans un sens, vous savez déjà tout ça. Là, on a vu une vision. Il y avait un bélier, il y avait un bouc. Ces animaux représentaient les rois de Perse et les rois de Grèce. Et là encore, nous avons la même chose. Les rois de Perse, les rois de Grèce. Dieu est en train de révéler à l'avance l'avenir à Daniel. Alors, qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui est surprenant dans ce début? Dans le début de ce chapitre. En fait, ce qui est surprenant, ce qui est étonnant, c'est la brièveté. Parce que Dieu, en si peu de temps, en si peu de versets, esquisse une époque glorieuse avec des rois glorieux, Xerxès de Perse, par exemple. Et ensuite, ce grand roi qui va surgir, c'est Alexandre le Grand, un roi qui a dominé dans l'histoire. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ce passage? En fait, il est en train de réduire à leur juste taille ces grands de l'histoire. Pourtant, pour nous, vraiment des grands. Mais pour Dieu, ils sont que des détails. On voit dans ce passage que Alexandre le Grand ne va même pas pouvoir léguer son empire à ses enfants. C'est comme si Dieu, dans un bouquin d'histoire à l'école, ne donnait que quatre mots au règne de Louis XIV. Et ensuite, deux mots à Napoléon. Et finalement, rien du tout à Charles de Gaulle. Comme s'il disait, bon, que des détails de l'histoire, c'est pas important de passer du temps là-dessus. Cette histoire dont Dieu est le maître. Et ça nous montre la grandeur de notre Dieu. Ça nous montre la grandeur de Dieu pour que ces hommes, ces grands, puissent être considérés comme des simples sauterelles, des petites fourmis à l'échelle de Dieu. Dieu s'intéresse à autre chose qu'eux. Et ça, c'est la perspective que Dieu veut nous donner ce matin, au début de cette vision. Dieu est beaucoup plus grand que les grands de ce monde. Combien même ces grands nous effraient. Ils sont que des sauterelles, que des petites fourmis. Comparé à Dieu, notre Dieu est plus grand que les grands de l'histoire. Alors, on va passer à la deuxième partie de ce passage, elle est plus longue. Elle concerne l'avenir pour Daniel, mais pour nous, en fait, c'est déjà du passé. Alors, je vous préviens, cette partie n'est pas facile. Ne soyez pas découragés si vous n'arrivez pas à vraiment retenir tous les détails. Verset 5. Le roi du Sud deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et exercera sa propre domination, une domination puissante. Au bout de quelques années, ils concluront une alliance et la fille du roi du Sud s'unira au roi du Nord pour concrétiser leur accord. Mais elle ne tiendra pas le coup et ni lui ni son armée ne pourront résister. Elle sera cédée avec ceux qui l'auront amenée, avec son père, avec celui qui aura été son soutien à cette époque-là. En rejetant de même racine qu'elle se dressera à sa place. Il viendra attaquer l'armée du roi du Nord et pénétrera dans sa forteresse. Il interviendra contre eux et deviendra puissant. Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs idoles en métal fondu, ainsi que leurs objets précieux en argent et en or. Puis il restera quelques années à distance du roi du Nord. Celui-ci marchera contre le royaume du roi du Sud, mais il devra revenir dans son territoire. Ses fils se mettront en campagne et rassembleront d'immenses troupes. Elles viendront et déferleront comme un torrent, déborderont, puis reviendront et pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Sud. Le roi du Sud s'irritera, il sortira et combattra contre le roi du Nord. Il mobilisera une grande troupe et les troupes du roi du Nord seront livrées à son pouvoir. Cette troupe sera fière et le cœur du roi du Sud se remplira d'orgueil. Il fera des dizaines de milliers de victimes et il ne triomphera pas. En effet, le roi du Nord reviendra et mobilisera une grande troupe plus nombreuse que la première. Au bout de quelques temps, de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses. À cette époque-là, beaucoup se dresseront contre le roi du Sud. Des hommes violents issus de ton peuple se soulèveront pour accomplir la vision et ils trébucheront. Le roi du Nord viendra, il construira des remblais et s'emparera des villes fortifiées. Les troupes du Sud et l'élite du roi ne résisteront pas. Elles n'en auront pas la force. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra sans que personne ne lui résiste. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant tout ce qui tombera sous sa main. Il formera le projet d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure un accord avec le roi du Sud. Il lui donnera sa fille en mariage dans l'intention de détruire sa royauté. Mais cela n'arrivera pas. Il n'obtiendra pas ce qu'il voulait. Il s'orientera vers les îles et en prendra beaucoup. Mais un chef militaire mettra fin à la honte qu'il voulait lui attirer et la fera retomber sur lui. Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays, où il trébuchera et tombera, et on ne le trouvera plus. Celui qui le remplacera fera venir un oppresseur dans la plus belle partie du royaume. Mais il sera brisé en quelques jours, et ce ne sera ni par la colère, ni par la guerre. Alors c'est vrai, ce n'est pas facile à comprendre un tel passage. Pourtant, c'est un passage remarquable, qui a fait couler beaucoup d'encre, parce que ce passage est une prophétie. Et dans ce passage, Dieu semble révéler à l'avance, des dizaines d'années à l'avance, tout un pan de l'histoire qui a eu lieu après la mort d'Alexandre le Grand et avant l'arrivée d'Antiochos IV, Épiphane, ce roi qu'on a vu au chapitre 8 il y a quelques semaines. Et Dieu semble révéler à l'avance ce qui va se passer. Et Dieu le fait de manière détaillée. Et quand on y pense, c'est vraiment incroyable. C'est comme si il y a 100 ans, Dieu avait déjà dit à l'avance exactement ce qui allait se passer avec la Première Guerre mondiale, les puissances différentes, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide, 89 avec la chute du mur, ce genre de choses. C'est vraiment détaillé. En quelque sorte, c'est incroyable. Et pour certains, c'est vraiment pas croyable. Parce que pas mal de commentateurs, pas mal de théologiens dits libéraux, ils ont vraiment du mal avec ce passage. Ils disent que c'est pas possible que Dieu a révélé ces choses à l'avance de manière si détaillée. Parce que après, si on compare tous ces détails avec ce qui s'est passé, on voit qu'en effet, vraiment cette prophétie s'est accomplie. Et il y a des gens qui ont du mal avec ça. Ils se disent non, c'est pas possible. Alors comment est-ce qu'on peut répondre à ces personnes qui pensent comme ça? Déjà, je pense qu'on peut dire oui, c'est difficile. C'est vraiment étonnant. C'est vraiment étonnant que Dieu a choisi de faire ça. Mais en même temps, Dieu a choisi tout au long de ce livre de Daniel de se révéler comme le Dieu qui révèle des mystères. Qui sait, quiconque d'autre peut révéler ces mystères. Il est celui qui est vraiment capable de le faire parce qu'il maîtrise l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ces versets? J'ai donné le titre à cette section. Dieu ne va pas se retirer de l'histoire des nations. On voit ici tous ces combats entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Après la mort subite d'Alexandre le Grand, son empire a été réparti en 4 royaumes à peu près. Il y avait 4 grands blocs, dont le royaume du Nord, qui était à peu près en Syrie, et le royaume du Sud, qui se trouvait plutôt en Égypte. Et ça nous montre, parce qu'on sait que le peuple revenu de l'exil, le peuple de Dieu, les Israélites, était là coincé un peu entre ces deux royaumes. Donc Dieu focalise un peu sur ces deux royaumes parce que son peuple est encerclé par ces puissances. Dieu est en train de décrire l'avenir de ces puissances qui vont encercler son peuple. C'est un peu comme si Israël était le Luxembourg, encerclé par ces grandes puissances de la France, l'Allemagne, bien sûr la Belgique. Ces royaumes, on le voit dans ce passage, vont se chamailler. Ils vont se battre pendant des années. Et au milieu, il va y avoir le peuple de Dieu, tout petit, mais quand même précieux aux yeux de l'Éternel. Et comme j'ai dit, ce qui est vraiment étonnant, c'est que tous ces détails se sont accomplis. Ça serait possible d'aller voir dans les bouquins d'histoire, je l'ai fait dans la semaine, de voir exactement dans les commentaires comment exactement ces choses se sont accomplies. Il y avait ces mariages stratégiques entre les rois qui n'ont pas tellement bien marché. Mais moi, ce que je veux retenir ce matin, ou je veux mettre l'accent là-dessus, c'est un peu la futilité de ces guerres. La futilité de ces guerres entre les voisins d'Israël. Il y a un va-et-vient futile. Et un commentateur a recensé le nombre de fois qu'on voit le mot « mais » dans ce passage. Verset 6, « mais elle ne tiendra pas le coup ». Verset 9, « mais il devra revenir dans son territoire ». Verset 12, « mais il ne triomphera pas ». C'est comme ça l'histoire humaine. Il y a un va-et-vient perpétuel. Il y a des guerres. Une fois, c'est l'un qui gagne. La prochaine fois, c'est l'autre qui gagne et l'histoire se répète. On peut penser au nombre de fois que l'Alsace a changé de main. Quelle futilité en quelque sorte. Tous les soldats qui ont été sacrifiés dans ces guerres perpétuelles. Et Daniel lui-même a déjà vécu cette futilité. La Babylonie a conquis la Juda, la Babylonie a été conquise à son tour par les Perses, qui sont conquis à leur tour par la Grèce. Il y a une certaine futilité dans tout ça. Et en fait, cette futilité nous montre que Dieu n'est pas absent. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Alors pourquoi? C'est parce que Dieu ne permet pas que l'homme et ses ambitions malsaines avancent sans frein. En fait, Dieu juge, Dieu met un frein au mal. Ce mal est intrinsèquement instable. On le voit tout le temps, même dans l'histoire de notre siècle. Le mal surgit et ensuite il tombe, souvent aux mains d'un autre mal qui surgit. Il n'y a que la volonté de Dieu qui est bonne et stable. Les hommes courent de manière insensée après la gloire, après l'influence, après le pouvoir. Mais il y a une futilité dans tout ça. C'est quelque chose que nos hommes politiques expérimentent, je pense. Ils courent après cette gloire. Et ensuite, l'opinion publique change. Il y a une certaine futilité dans tout ça. Et c'est parce que Dieu est là. Dieu met un frein à l'orgueil des hommes. Et pour Israël, même si ses royaumes, le nord et le sud, vont apparaître comme des puissances énormes, ils sont que des royaumes passagers. Dieu est là. Et Dieu ne permet pas au mal de rafler la mise. Seule sa volonté sera permanente, bonne et irréversible. Et ça, c'est la perspective que Dieu est venu donner ce matin. C'est seule sa volonté qui est permanente. On va avancer parce que ce passage est encore long. On va lire les versets 21 à 35. Et j'ai donné le titre suivant à cette section. Dieu n'abandonnera pas son peuple quand il passe par l'épreuve. Verset 21. Un homme méprisé prendra sa place sans qu'on lui ait donné la dignité royale. Il arrivera dans une période de tranquillité et s'emparera du royaume grâce à des intrigues. Les troupes qui déferleront comme un torrent seront submergées devant lui et brisées, de même que le chef de l'alliance. Une fois qu'on sera rallié à lui, il recourra à la tromperie. Il se mettra en marche et aura le dessus avec peu de monde. Il pénétrera en toute tranquillité dans les endroits les plus fertile de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses prédécesseurs ni ses ancêtres. Il distribuera le butin, les biens et les richesses. Il formera des plans contre les forteresses, et cela pendant un certain temps. À la tête d'une grande armée, il déployera sa force et son courage contre le roi du Sud. Ce dernier s'engagera dans la guerre avec une grande et très puissante armée, mais il ne résistera pas, car on formera des plans contre lui. Ceux qui mangeront des plats servis à sa table causeront sa perte. Son armée se dissoudra, et les morts tomberont en grand nombre. Les deux rois chercheront dans le cœur à faire du mal, et à la même table, ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au moment fixé. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Dans son cœur, il aura des intentions hostiles contre l'Alliance sainte. Il agira contre elle avant de retourner dans son pays. Au moment fixé, il marchera de nouveau contre le sud, mais cette fois-là, cela ne se passera pas comme la première fois. Des bateaux venus de l'ouest avanceront contre lui. Découragé, il rebroussera chemin. Puis dans sa rage, il agira contre l'Alliance sainte. Il reviendra et traitera avec bienveillance ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte. Des troupes se présenteront sur son ordre et elles souilleront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abominable dévastation. Il corrompra par des flatteries ceux qui violent l'Alliance. Mais les membres du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus perspicaces donneront instruction à beaucoup. Ils se heurteront pour un temps à l'épée et à la flamme, à la déportation et au pillage. Durant cette période, ils recevront un peu d'aide, et beaucoup se rallieront à eux de façon hypocrite. Quelques-uns des hommes perspicaces trébucheront afin d'être affinés, purifiés, épurés, jusqu'au moment de la fin, car elle n'arrivera qu'au moment fixé. Alors dans cette section qui est encore difficile, hein, Dieu se focalise sur une période précise de l'histoire de son peuple. En fait, c'est une période qu'on a déjà traitée au chapitre 8, parce qu'il s'agit de cette période terrible avec ce roi qui a surgi, ce roi qui était vraiment un monstre, qui s'appelait Antiochos IV, Antiochos Épiphane. Un vrai roi, donc à peu près en l'an 175, 160, voilà, dans ces eaux-là. Et encore une fois, il faut quand même garder à l'esprit que ce texte est une prophétie donnée à Daniel des années à l'avance. Dieu connaît l'histoire de son peuple. Il maîtrise l'histoire, l'avenir de son peuple, même les zones ténébreuses. C'est vrai pour le peuple de Dieu ici dans l'Ancien Testament, mais c'est tout aussi vrai pour nos vies. Il maîtrise nos avenirs. Il maîtrise aussi les endroits ténébreux que nous, dont nous avons peur. Mais dans ce passage, on voit qu'il ne nous abandonne pas. Il n'abandonne pas son peuple. Alors, pour mémoire, il s'agit d'un temps de persécution terrible, oui, qui a lieu sous le mandat de ce roi Antiochos IV. Et on voit qu'il va revenir à Jérusalem après une grande bataille contre le roi du Sud en Égypte. Ça, c'est ce qu'on voit ici au verset 29 et 30. Il est frustré aussi par les forces des bateaux venus de l'Ouest. Et on voit ça dans l'histoire. Effectivement, ce roi était frustré par les bateaux romains qui l'ont obligé à rebrousser chemin. Et ensuite, on voit au verset 30 que dans sa rage, il va agir contre l'Alliance Sainte. Et ça, c'est ce qu'on voit dans l'histoire. La fois, lorsque l'on l'a fait lors de la prédication sur Daniel 8, on a parlé du récit de Maccabée. Et puis, ce qui s'est passé à cette époque-là, il y avait des massacres énormes, des atrocités. C'était en l'an 67 avant Jésus-Christ. Antiochos IV a profané le temple de Jérusalem. Et surtout, il avait contraint les Juifs pieux d'abandonner leur foi. C'était une persécution terrible. Et ici, dans ce passage, Dieu est en train d'annoncer à l'avance cette persécution à venir. Il annonce aussi que beaucoup vont être pris dans ce filet, le filet de la flatterie. Antiochos va user de la flatterie pour gagner des Juifs à sa cause, des Juifs qui ne prennent pas trop au sérieux l'Alliance, la Sainte Alliance, la loi. Peut-être ceux qui veulent s'adapter à la culture, être bien vus, ceux qui veulent paraître modernes, peut-être dans l'air du temps. Et là, on voit peut-être une vieille technique qui nous guette aussi. Mais en tout cas, on voit que Dieu n'est pas absent. Et Dieu ne les abandonne pas dans cette épreuve. Déjà, on voit un peu partout dans le passage la souveraineté de Dieu. C'est lui qui fixe les temps. Antiochos ne va pas fixer les temps, il ne les maîtrise pas. C'est Dieu qui tient le calendrier dans ses mains. Et pourtant, Dieu choisit de laisser son peuple passer par cette épreuve énorme. De manière mystérieuse, Dieu est souverain là-dessus. On sait que rien ne se passe dans ce monde sans les décrets éternels de Dieu. Ça reste un mystère. Donc Dieu est maître, souverain même sur cette épreuve, sans qu'il soit l'auteur de ce mal. Mais dans l'épreuve, Dieu n'est pas absent. Dieu n'abandonne pas son peuple. Alors comment ça? Parce que moi, je ne vois pas de délivrance comme dans le chapitre sur la fournaise ardente. Je ne vois pas de délivrance comme on a vu pour Daniel lorsqu'il y avait cet épisode avec la fosse au lion, où est la délivrance? Alors, ce sont les versets 32 et 33 qui nous donnent la clé. Là, on lit, « Il corrompra par des flatteries ceux qui violent l'alliance, mais les membres du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus perspicaces ou les plus sages donneront instruction à beaucoup. » Et on va voir dans la section suivante que ça, c'était vrai pour le peuple à l'époque, mais c'est tout aussi vrai pour nous aujourd'hui. Dieu utilise des moyens pour aider son peuple à tenir bon, pour aider son peuple à résister dans l'épreuve. Si son peuple va résister, si son peuple ne va pas céder à la flatterie, si son peuple ne va pas succomber au récit supposé éclairé de sa culture, si son peuple va se fortifier face à la violence, il a besoin de connaître son Dieu tel qu'il est vraiment. Et Dieu donne cette connaissance à son peuple. Et par cette connaissance, il fait persévérer son peuple jusqu'à la fin. Donc voilà la grande idée pour nous ce matin dans ce message. Le sage ou le perspicace tiendra ferme face au malheur à venir parce qu'il connaît son Dieu. Le sage ou le perspicace va tenir ferme dans les malheurs à venir parce qu'il connaît son Dieu. Voilà le message clé. Si on veut être sage comme Daniel, il nous faut connaître Dieu. Il faut vraiment le connaître tel qu'il est, toute sa grandeur, toute sa gloire, toute sa splendeur. Et nous sommes là, je pense, dans le cœur du livre de Daniel. Ce livre, on l'a vu depuis le mois de janvier, ce livre nous montre Dieu pour que nous puissions faire sa connaissance, pour que nous puissions faire confiance, lui faire confiance dans l'épreuve et tenir bon jusqu'à la fin. Ça, c'est la clé de la sagesse. C'est la clé de la sagesse de cet homme Daniel. Parce que on voit dans ce livre un homme, Daniel, qui connaît son Dieu, qui tient bon dans l'épreuve parce qu'il connaît son Dieu. Daniel connaissait Dieu dans sa souveraineté. Daniel savait que sans Dieu n'était pas limité. Daniel voyait que Dieu était libre, libre dans sa souveraineté. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Dieu est au-dessus des puissants de ce monde. Rien n'échappe à sa volonté. Dieu connaît ce qui est dans les ténèbres. Il connaît l'avenir parce qu'il maîtrise l'avenir. Il connaît et maîtrise l'avenir de chacun de nous. Il connaît, il maîtrise l'avenir de notre Église. Et nous serons d'autant plus capables de résister dans l'épreuve si nous connaissons notre Dieu tel qu'il est vraiment. Il est vraiment souverain. Et Daniel connaissait le Dieu souverain qui aimait son peuple. Et ça, on a vu tout au long de ce livre aussi. Dieu aimait son peuple. Il aime son peuple. Il a délivré Daniel et ses amis. Il les a protégés. Il a fait en sorte que Daniel monte les échelons du pouvoir. Daniel a su, il avait la faveur imméritée de son Dieu. Dieu aime son peuple. Daniel savait aussi que l'amour de Dieu est un amour saint et juste. Si les Judéens étaient là à Babylone, c'était parce qu'ils avaient péché, parce qu'ils s'étaient rebellés contre Dieu. C'était Dieu qui les avait livrés dans sa souveraineté aux Babyloniens. C'est parce que Dieu est saint. C'est parce que Dieu ne tolère pas le mal, le péché. Il éprouve son peuple. Il purifie son peuple. Il le laisse passer par ses épreuves, parfois rudes, parce qu'il veut que son cœur, lui, soit attaché. Et ça, c'est aussi ce qu'on voit ici dans les versets 32 à 35. Certains sont livrés à la persécution, Et on voit que même des sages, des perspicaces, même certains vont y succomber. Pourquoi? Verset 35, afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué, la fin. Et là, on voit que Dieu est souverain même sur ses épreuves. C'est un peu comme dans le livre de Job. Job, le juste serviteur de Dieu. Mais Dieu a délimité ses épreuves. Alors, si on connaît notre Dieu, on sera comme Daniel. Nous ferons confiance à Dieu, même dans ses épreuves, parce qu'on connaît Dieu. Et si on connaît Dieu, on sera sur nos genoux, en train de l'implorer de garder ses promesses. On sera sur nos genoux, en train de l'implorer à sanctifier son nom, à faire sa volonté, et aussi à nous enraciner, à enraciner son peuple dans sa connaissance, dans la connaissance de son Fils Jésus-Christ. Donc Dieu n'abandonne pas son peuple. Dieu le fortifie dans l'épreuve, mais il le fait par des moyens précis, notamment la connaissance, par la connaissance de lui-même. Il y tient par cette connaissance. Ce n'est pas juste une connaissance académique des textes, c'est une connaissance familiale, une connaissance filiale, la connaissance d'enfant pardonné, racheté. C'est une connaissance relationnelle de lui, de ce Dieu souverain qui aime son peuple, qui aime son peuple avec un amour saint et juste. Et dans la dernière partie de ce chapitre, nous voyons que nous avons, nous aussi, besoin de cette connaissance relationnelle. Parce que même si on a une espérance, et on va voir ça la semaine prochaine, l'avenir, au moyen terme en tout cas, n'est pas rose. On va lire les versets 36 à 45 pour terminer. Le roi fera ce qu'il voudra. Il sera plein d'arrogance. Se grandira au-dessus de tous les dieux et prononcera des paroles extraordinaires contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit à son comble, car ce qui est décidé s'accomplira. Il ne prêtera attention ni aux dieux de ses ancêtres, ni à celui qui désire les femmes. Il ne prêtera attention à aucun dieu, car il se grandira au-dessus de tous. C'est le Dieu des forteresses qu'il honorera sur son piédestal. À ce Dieu que ne connaissaient pas ses ancêtres, il rendra hommage avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de valeur. C'est avec ce Dieu étranger qu'il agira contre les endroits fortifiés et comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il leur donnera la domination sur beaucoup et leur distribuera des terres en guise de récompense. Au moment de la fin, le roi du sud l'affrontera et le roi du nord fondra sur lui comme une tempête avec des chars et avec des cavaliers ainsi que de nombreux bateaux. Il pénétrera dans tous les pays, déferlera comme un torrent et débordera. Il pénétrera dans le plus beau des pays et beaucoup trébucheront. Mais voici ceux qui seront délivrés de son pouvoir. Édom, Moab et les principaux des Ammonites. Il étendra son pouvoir sur divers pays et l'Égypte n'y échappera pas. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de tous les biens précieux de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens marcheront à sa suite. Des nouvelles de l'Est et du Nord le troubleront. Et il partira dans une grande colère, détruire et exterminer beaucoup d'hommes. Il dressera les tentes et son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne. Puis il arrivera à sa fin, sans que personne ne l'aide. Alors certains ont pensé que ce roi est encore le roi Antiochos IV, Épiphane. Et c'est vrai qu'il y a quand même quelques traits de caractère similaire entre ces rois. Mais ce qu'on voit aussi dans la suite de ce passage, c'est que finalement, les détails qui concernent ce roi, toutes les batailles qu'il va avoir, n'étaient pas vraiment les batailles qu'Antiochus IV avait. Et pourtant, jusqu'ici, merci pour le verre d'eau, merci. Jusqu'ici, dans le passage, tous les détails qu'on a eus se sont vraiment accomplis dans l'histoire de manière parfaite. Mais là, on voit que c'est un peu différent. Ces promesses ne sont pas accomplies lors de la vie d'Antiochus IV. Mais on voit quand même les mêmes traits de caractère. Nous voyons quelqu'un qui est farouchement contre Dieu. Il se met au-dessus de Dieu. Il s'élève au-dessus de Dieu. Il ne suit pas les dieux de ses ancêtres. Ça, c'est ce que Antiochus a quand même fait. Mais ici, il aime avant toute chose le pouvoir, le dieu des forteresses. Il va donner du pouvoir à ceux qui le reconnaissent. Il a les mêmes tactiques, c'est la flatterie. Il va corrompre les gens. Et comme pour Antiochus, ce passage parle de guerre et de conquête. Il va exterminer beaucoup de gens. Alors, de qui est-ce que ce passage parle alors? Alors, c'est pas facile ce passage. On ne sait pas exactement comment ces choses vont s'accomplir ou si certains détails se sont déjà accomplis. Il se peut qu'il y ait déjà eu certains accomplissements dans l'histoire. Jésus lui-même se réfère à ce roi à venir. Avant d'aller à la croix, Jésus, dans Marc chapitre 13, a cité ce passage dans Daniel 11. Jésus a évoqué cette abomination de la désolation. Peut-être il pensait aux Romains qui allaient venir, qui allaient détruire le temple en l'an 70. Peut-être il pensait plutôt à un roi beaucoup plus puissant qui allait venir, qui va venir vers la fin de l'histoire. En tout cas, dans l'histoire, il y a eu des personnages, et parfois dans l'histoire de l'Église, on a pensé à tel et tel, on dit, est-ce que c'est lui, ce roi terrible? Mais il me semble, peut-être à la lumière des autres Écritures, le Nouveau Testament, qu'il s'agit de quelqu'un qui est encore à venir, quelqu'un qui va venir à l'avenir. L'apôtre Jean parle de l'Antichrist. L'apôtre Paul parle d'un homme impie qui va venir. En tout cas, l'Écriture nous donne l'image d'une époque de terribles épreuves qui va venir vers la fin des temps. Et pour nous y préparer, nous avons besoin du même message que le peuple de Dieu encerclé des royaumes du nord et du sud. On a besoin de ce message qu'on voit au verset 32 et 33. Ce message qui nous donne la clé. Mais les membres du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages, les plus perspicaces donneront instruction à beaucoup. Le sage, le perspicace tiendra ferme dans les malheurs de la vie parce qu'il connaît son Dieu. Par contre, le fou ne va pas tenir ferme dans les malheurs de la vie parce qu'il ne connaît pas Dieu tel qu'il est vraiment. Il aura bricolé une certaine idée de Dieu. Il aura cherché des expériences émotionnelles religieuses ici et là. Il aura fait de Dieu un distributeur d'argent, de cadeaux, de guérison. Mais il n'aura pas connu le vrai Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit, ce Dieu qui est pleinement souverain, même dans les malheurs de la vie. Ce Dieu souverain qui aime son peuple et qui aime son peuple avec un amour saint et juste. Et donc voilà notre besoin criant. La connaissance de notre Dieu. Une vraie connaissance familiale, filiale, celle d'un enfant. Et c'est pour ça que notre plus grand besoin, c'est de connaître Dieu. Notre plus grand besoin, c'est de connaître Jésus. Au début du Nouveau Testament, on lit, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » On a besoin de Jésus pour connaître Dieu. On voit Dieu sur le visage de Jésus. L'apôtre Philippe a dit à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père et ça nous suffit. » Et Jésus lui a dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Comment connaître Dieu de manière, je vais dire parfaite, mais avant de vraiment voir Jésus, on ne va pas connaître de manière parfaite, mais on regarde à Jésus et on voit le Père. On écoute les paroles de Jésus et on écoute les paroles du Père. On voit les œuvres de Jésus et on voit les œuvres du Père. On connaît notre Dieu en fixant notre regard sur Jésus, en fixant notre regard sur la croix où on voit de manière extraordinaire l'amour du Père qui a donné son Fils pour les pécheurs. On voit cet amour saint et juste. On voit vraiment cette souveraineté là où Dieu s'est rendu faible. C'est là, à ce moment-là, qu'il a eu la victoire sur le mal et le malin. On y voit toute sa souveraineté. J'aimerais vous poser la question, est-ce que vous avez ce désir de connaître plus profondément ce Dieu? Est-ce que vous avez envie de le connaître davantage et le connaître plus personnellement? Nous avons tous besoin d'être de plus en plus enracinés dans la connaissance de Jésus-Christ, celui qui nous montre le Père. Nous avons besoin de prier, comme Daniel. Nous avons besoin d'être sur nos genoux, implorer le Père pour qu'il donne cette connaissance à son peuple, à son Église, à cette Église, pour qu'il nous aide à faire sa connaissance. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner cette connaissance. On ne peut pas juste avoir cette connaissance de manière intellectuelle. Il nous faut l'aide de l'Esprit. C'est lui qui nous ouvre les yeux. C'est lui qui applique cette connaissance à nos cœurs, qui nous donne ce désir de le connaître davantage. On peut nous poser la question ce matin, est-ce qu'on a ce désir de connaître Dieu? Est-ce qu'on a ce désir de connaître davantage Dieu? Et on va prier ensemble là maintenant pour que Dieu nous donne ce désir, qui alimente ce désir et qui nous comble avec la connaissance qui va nous aider de tenir bon jusqu'à la fin. Prions. Notre bon Père Céleste, nous voulons, comme Daniel, être des sages, des perspicaces. Nous voulons te connaître, nous avons besoin de te connaître. Donne-nous un désir ardent de mieux te connaître. Parfois, Seigneur, dans la vie de tous les jours, on ne pense pas trop à tout ça. Donne-nous un désir ardent d'être enraciné dans la connaissance de ton Fils, celui qui nous te révèle. Nous avons besoin d'être comblés par cette connaissance. Applique cette connaissance à nos cœurs par ton esprit. Nous avons besoin de voir plus clair. Nous avons besoin de t'aimer davantage. Et ça pour tenir bon, Seigneur. De nous-mêmes, en nous-mêmes, nous n'avons pas la force pour tenir bon. Et quand on pense à ces malheurs à venir, on sait qu'on est sans force. Enracine-nous en Jésus pour que nous puissions tenir bon jusqu'à la fin. Nous avons besoin de ton aide. Nous te demandons toutes ces choses au nom de ton Fils précieux, Jésus-Christ. Amen.